Chapitre 12. Le 19 octobre 1972. Professeur, sans doute serez-vous surpris de recevoir cette lettre. Pardonnez mon audace, je suppose que mon nom a disparu de votre mémoire. J'ai été enseignante, il y a longtemps, dans la petite ville de préfecture de Yamanashi. Peut-être vous rappelez-vous de moi. J'accompagnais les enfants lorsqu'eut lieu ce coma collectif durant la dernière année de la guerre. À la suite de cet incident inexpliqué, plusieurs professeurs des universités de Tokyo, à commencer par vous, nous ont rendu visite, accompagnés de dirigeants de l'armée. J'ai donc eu l'occasion de vous rencontrer à plusieurs reprises. Par la suite, j'ai eu maintes fois l'occasion de lire votre nom élogieusement cité dans les journaux, et je suis admiratif de l'œuvre que vous avez accomplie. Je me souviens de vous à l'époque, et notamment de votre façon de parler succincte et précise. J'ai également eu l'honneur de lire quelques-uns de vos ouvrages, et je suis toujours impressionné par la profondeur de votre réflexion et la qualité de votre jugement. Votre vision du monde, lorsque vous affirmez que l'existence de chaque humain est vouée à une stricte solitude, mais que nous sommes reliés les uns aux autres par des archétypes immémoriaux, est extrêmement convaincante. Au cours de ma vie, il m'est en effet souvent arrivé de ressentir les choses de cette façon. Je ne puis que vous souhaiter une réussite plus éclatante encore à l'avenir. J'ai continué à enseigner dans la même école élémentaire de la ville de... Or, voici quelques années, ma santé défaillante m'a valu une hospitalisation de longue durée à l'hôtel de Kofu. À cette occasion, j'ai démissionné de mon poste pour convenance personnelle. Pendant une année, je me suis fait soigner alternativement à l'hôpital et à domicile. Aujourd'hui, je suis rétabli et dirige un cours privé de soutien scolaire. Les enfants de mes anciens élèves sont devenus mes élèves. Quoi qu'il s'agisse là d'une réflexion bien banale, je ne peux m'empêcher de remarquer à quel point les années filent vite. J'ai perdu un mari et un père adorés dans cette guerre. Et dans le chaos de l'après-guerre, j'ai aussi perdu ma mère. Ma brève vie conjugale ne m'ayant pas laissé le temps de concevoir un enfant, j'ai donc vécu seul. Je ne puis prétendre que c'était une vie heureuse. Cependant, grâce à ma longue carrière d'institutrice, j'ai vu grandir de nombreux élèves, et j'ai eu ainsi une vie bien remplie. J'en suis reconnaissante au ciel. Si je n'avais pas occupé ce poste d'enseignante, je n'aurais peut-être pas supporté cette existence. Si je me permets de vous écrire, au risque de me montrer indiscrète, c'est que l'affaire du coma collectif de l'automne 1944 n'a jamais quitté mon esprit. Même si, depuis, le temps a fui à tire-d'aile et que 28 années se soient écoulées, cet incident est encore aussi présent que s'il s'était produit hier. Ce souvenir ne me quitte pas. Il s'attache à moi comme une ombre. J'ai passé tant de nuits sans sommeil, en proie à des pensées qui apparaissaient et s'effaçaient comme des rêves. J'ai même l'impression que ma vie entière en a été affectée. Chaque fois que je croise un de ceux qui, enfants, ont été les protagonistes de cette étrange affaire, la moitié d'entre eux habitent encore cette ville et approchent maintenant de la quarantaine, je pense invariablement aux conséquences que cet incident a eues pour eux, ainsi que pour moi. Il a sûrement laissé des traces dans nos corps et nos esprits. Il ne peut en être autrement, je le sens bien. Mais quelle a été l'ampleur de son influence sur nos vies ? Je n'en ai aucune idée. Cet événement, comme vous le savez, n'a pas été rendu public par décision de l'armée. Après la guerre, une enquête a été menée à l'instigation des forces d'occupation américaines. Pour être franche, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de grande différence dans le comportement des militaires, qu'ils appartiennent à une nation ou à une autre. Dans un premier temps, l'armée américaine a tenu secret les résultats de l'enquête. Mais, même après la fin de l'occupation, l'affaire n'a pas spécialement suscité l'intérêt de la presse. Après tout, ces événements remontaient à plusieurs années, et il n'y avait pas eu de mort. La plupart des gens continuent donc à ignorer l'existence de cet incident, passé inaperçu au milieu des incroyables atrocités d'une guerre qui a coûté la vie à des millions de gens. Nul n'a songé à s'étonner de l'évanouissement passager d'un groupe d'enfants en pleine montagne. Dans la région, seule une poignée de gens s'en souvient. Et aucun ne semble avoir envie d'évoquer cette histoire ancienne. Nous vivons dans une petite ville de campagne et les gens du coin, préférant ne pas réveiller le chat qui dort, abandonnent à l'oubli cet épisode déplaisant. Tout s'oublie, vous savez. Cette guerre effroyable, et avec elle l'existence des êtres irremplaçables qu'elle a fauchés, appartient désormais à un passé révolu. Sous l'implacable emprise du quotidien, beaucoup de préoccupations, autrefois si chères à nos cœurs, disparaissent de nos consciences comme des étoiles mortes. Il nous faut penser chaque jour à tant de choses, nous familiariser en permanence avec de nouveaux styles, de nouvelles connaissances, de nouvelles techniques, de nouveaux mots. Certains souvenirs, pourtant, se refusent à sombrer dans l'oubli, quel que soit le temps écoulé et le sort que la vie nous est réservé. Des souvenirs qui gardent toute leur intensité et restent en nous comme la clé de voûte de notre temple intérieur. Pour moi, les événements qui se produisirent ce jour-là sur la colline sont de cet ordre. Peut-être est-il trop tard à présent. Peut-être ma démarche vous paraîtra-t-elle parfaitement vaine après toutes ces années. Cependant, je tiens à vous faire part, tant que je suis encore en vie, de l'expérience que je vécus ce jour-là. C'était la guerre. Nous subissions une pression idéologique très forte et certains sujets étaient tabous. Lors de notre entrevue, par exemple, nous étions entourés d'officiers de l'armée. Les conditions ne me permettaient pas de vous parler à cœur ouvert. Et puis, à l'époque, je ne savais rien de vous, ni de votre travail. J'étais une jeune femme réservée. Je ne pouvais livrer mon intimité à l'inconnu que vous étiez. J'ai donc dû dissimuler certains détails de cette journée. Autrement dit, j'ai déformé intentionnellement une partie des faits. Lors de l'enquête menée après la guerre par l'armée américaine, je m'en suis tenu au même témoignage. Par peur, et pour préserver les apparences, j'ai répété le même mensonge. Faire la lumière sur cette affaire en est devenu d'autant plus difficile. Mes mensonges vous ont peut-être aiguillé vers des conclusions erronées. J'en suis même sûr. Cette idée me tracasse depuis des années, et je suis aujourd'hui honteuse d'avoir agi ainsi. Voilà donc pourquoi je vous adresse aujourd'hui une si longue lettre. Vous êtes un homme occupé, et mon initiative vous dérange sans doute. Dans ce cas, parcourez ces feuilles comme s'il s'agissait des divagations d'une femme au seuil de la vieillesse, et jetez-les. Pour ma part, j'éprouve simplement le besoin de rétablir la vérité tant que je peux encore le faire, et de remettre cette confession entre les mains de la personne la plus digne de la recevoir. J'ai été très malade, et si je suis guéri aujourd'hui, une rechute est toujours possible. J'espère que vous daignerez prendre cela en considération. La veille du jour où j'ai emmené les enfants dans la forêt, juste avant l'aube, j'ai rêvé de mon mari qui, à l'époque, avait été mobilisé et se trouvait au front. C'était un rêve érotique, très concret. Un de ces rêves qui paraissent si réels qu'il devient difficile de délimiter la frontière entre le songe et la réalité. Nous faisions l'amour près du sommet d'une montagne, sur un rocher plat, gris clair, de la largeur d'un lit. La roche humide était glissante. Un ciel chargé de nuages nous surplombait. L'orage menaçait d'éclater d'un instant à l'autre. Il n'y avait pas un souffle de vent. Le crépuscule approchait, les oiseaux se hâtaient vers leur nid. Mon mari et moi faisions l'amour sans échanger un mot. La guerre nous avait séparés peu de temps après notre mariage et je désirais ardemment mon époux. Je ressentis en rêve une jouissance indescriptible. Nous fîmes l'amour plusieurs fois et j'éprouvais plusieurs orgasmes violents. à la réflexion, ce rêve était bien étrange, car mon mari et moi étions tous deux plutôt introvertis, et dans la réalité, nous n'avions jamais fait l'amour avec une telle avidité, dans autant de positions différentes, en partageant un plaisir d'une telle intensité. Mais dans ce rêve, délivrés de toutes nos inhibitions, nous faisions l'amour comme des bêtes. Quand je me suis réveillé, il faisait encore sombre. Je me sentais dans un état bizarre. Mon corps était lourd. J'avais encore la sensation de la verge de mon mari dans mon vagin. Mon cœur battait à se rompre. J'avais du mal à respirer. Mon sexe était humide comme après un véritable rapport. J'avais l'impression d'avoir bel et bien fait l'amour. J'ai honte de devoir le dire, mais le fait est que je me suis aussitôt masturbé. J'éprouvais une tension sexuelle si forte qu'il me fallait absolument la calmer. Ensuite, je suis parti à l'école à vélo comme d'habitude, puis j'ai emmené les enfants sur la colline du Bol de Riz. Tandis que j'avançais sur ce sentier de montagne, les sensations de mon rêve continuaient à résonner en moi. Les yeux fermés, je revivais l'instant où mon mari avait joui en moi. Je sentais à nouveau son sperme gicler à l'entrée de mon utérus. Je m'agrippais à son dos, écartais les jambes autant que je pouvais, serrais mes chevilles autour de ses cuisses. Mon corps gravissait le sentier avec les enfants, mais mon esprit était encore au milieu de ce rêve érotique. Nous sommes arrivés dans la forêt qui était le but de la balade. Au moment précis où j'ai donné le signal du début de la cueillette, mes règles se sont déclenchées, alors que ce n'était pas la période. Les dernières s'étaient en effet terminées à peine 10 jours plus tôt, et j'avais des cycles assez réguliers. Le rêve avait-il stimulé un quelconque mécanisme dans mon appareil génital, provoquant ce saignement intempestif? Quoi qu'il en soit, ne m'y attendant pas, je n'avais pas emporté le nécessaire. Et nous étions en pleine montagne. J'ai dit aux enfants que nous faisions une petite pause, et je me suis enfoncé seul sous les arbres. Je me suis tamponné en hâte avec les essuie-mains que j'avais emportés pour le pique-nique. En ai appliqué un autre entre mes cuisses. Je saignais abondamment. J'étais paniqué, mais je me suis dit que cela devrait tenir jusqu'au retour à l'école. Mon esprit était dispersé, je n'arrivais pas à réfléchir posément. Je me sentais coupable d'avoir fait un rêve aussi explicite, de m'être masturbé ensuite, et de m'être livré à des fantasmes sexuels alors que j'étais avec mes élèves. D'habitude, je suis plutôt de celles qui gardent le contrôle d'elles-mêmes. J'envoyais les enfants ramasser les champignons aux alentours, et je me dis que j'abrégerai la sortie. Une fois en bas, je pourrais me nettoyer un peu. Je me suis assise pour regarder les enfants. Je les comptais et les recomptais sans cesse, attentive à les garder tous dans mon champ de vision. Au bout d'un moment, un des garçons s'est approché de moi avec quelque chose dans la main. Il s'appelait Nakata. Oui, c'est bien celui qui est resté dans le coma et a été hospitalisé plus longtemps que les autres. Il tenait à la main les serviettes ensanglantées que j'avais laissées sous les arbres. J'en ai eu le souffle coupé. Je n'en croyais pas mes yeux. Je les avais pourtant cachées très loin, dans un coin où j'étais sûr que les enfants n'iraient pas, et je les avais soigneusement dissimulées au cas où l'un d'eux s'aventurerait par là. Et voilà que ce petit Nakata exhibait sous mes yeux l'objet le plus honteux qui soit pour une femme et qu'elle veut éviter à tout prix d'exposer au regard. Je n'ai jamais compris comment il avait pu trouver ces serviettes. Avant d'avoir eu le temps de comprendre ce que je faisais, j'avais saisi Nakata par l'épaule et lui asséné plusieurs gifles. Peut-être criai-je aussi. Ma confusion était totale. Je ne savais plus ce que je faisais. J'imagine que j'avais ressenti une telle honte que je me trouvais en état de choc. Jamais jusqu'alors, je n'avais frappé un élève. Mais je n'étais plus moi-même. Soudain, je me suis rendu compte que tous les enfants me regardaient. Certains debout, d'autres assis, tous avaient les yeux tournés vers ce spectacle pour le moins surprenant. Moi, debout, le visage blême, devant le petit Nakata projeté à terre par la force de mes gifles, les essuie-mains ensanglantés étalés tout autour. nous sommes tous restés figés sur place. Personne ne bougeait. Personne ne disait mot. Les visages des enfants étaient aussi inexpressifs que des masques de bronze. Un silence profond régnait sur la forêt, à peine troublé par quelques pépiments d'oiseaux. Cette scène est restée gravée dans ma mémoire.